Bienvenue à ton émission du midi sur Boulevard 102.1, c'est-à-dire l'émission en jase. De midi à 14h du lundi au vendredi avec Jeff Fortin, Pascal CV. Pascal CV qui est de retour. Un gros merci à Mathias Turcotte d'avoir assumé le remplacement dans les trois derniers jours. Il a très bien fait ça. Et là, Mathias Pascal est sur le terrain parce que ça brasse les travaux du tramway à Québec.
Oui, beaucoup de choses. D'abord, bonjour. Merci
bonjour.
À Mathias, effectivement. Compassion, empathie, yes. Tout le tralala pour ceux qui étaient sur les routes du Québec hier. Je suis descendue de la Côte-Nord et au lieu de prendre 8 heures...
C'était plus tough.
Oh, vraiment. Puis, je vous salue. Je pensais aux camionneurs. J'en ai croisé énormément. Je sais qu'ils sont à l'écoute.
Ouais.
C'est des gens qui travaillent fort dans toutes les conditions. Puis hier, ça m'a prouvé encore une fois qu'on a besoin d'eux et qu'ils sont fort patients, mesdames et messieurs.
Yes. 418-971-101 pour communiquer avec nous. BLVD.fm, il y a deux trucs que tu peux faire avec ceci. Premièrement, nous écouter sur la web radio. Et deuxièmement, aller voir les meilleurs moments de nos émissions. Et aller voir, hier, on a interviewé Bernard Drainville, candidat à la chefferie à la CAQ. On l'a trouvé un peu soft. Pascal l'a trouvé soft aussi. Antonine, ouais. C'est normal, c'est un début de course. Allez faire votre propre opinion si vous n'avez pas écouté l'entrevue d'hier, si vous n'étiez pas disponible hier à midi. L'application Boulevard, disponible sur App Store, Google Play Store. Donc, c'est à télécharger parce que, comme Pascal CV, si vous êtes en Côte-Nord, hein, vous pouvez écouter Boulevard 102.
Je vous ai écouté. J'essaie de faire mon rattrapage aussi directement sur la route. J'avais
nice.
Le temps, comme on dit.
Et voilà.
Ça fonctionne, tempête.
Twitch.tv, BLVD, barre en bas, FM. C'est pour aller nous voir sur Twitch. Venez nous voir, c'est le retour de Pascal CV, vous étiez en grand nombre dans les derniers jours. Et également, abonnez-vous à notre page YouTube, l'excellent podcast, notamment hier sur les 50 ans de carrière de Pierre Houde se retrouve justement sur notre page YouTube. Et vous avez plein de moments comme ça qui se retrouvent. Est-ce que vous avez trouvé que votre rue était bien déneigée aujourd'hui? Avez-vous trouvé que c'était bien déglacé? Trouvez-vous que la Ville de Québec fait un bon travail? 418-971-101, vous avez le droit de sacrer par texto. Je ne lirai pas vos sacs, mais vous avez le droit si ça vous fait du
défoulez-vous,
bien.
Défoulez-vous, c'est le défouloir.
Défoulez-vous, exactement, c'est bien dit, le défouloir boulevard au 418-971-101 sur le déneigement. Sinon, Pascal, Jonathan Junior fait une sortie sur le troisième lien parce qu'on en parle. Course à la chefferie à la CAQ, c'est revenu dans l'actualité.
Tout le monde est à Trois-Rivières là, du côté de la CAQ pour les prochaines heures, puis on parle de bien des choses, dont le fameux troisième lien. Hein? Dans la course à la chefferie, à la base, en ce moment, ça se déchire, mais c'est un des événements de toutes les années politiques de la CAQ qui a fait beaucoup bouger les choses, brasser, qui a fait des contents, des mécontents. Et là, on en reparle. Donc, on évoque une fourchette de coûts honnêtement, assez large, là. On parle pas des centaines de dollars de différence. On est dans les milliards.
C'est un 400 milliards de différence. Pas grave, il n'y a rien là, ça.
C'est entre 7 et 11 milliards de dollars qu'on estime.
Fait que là,
t'es
en train de me dire qu'on parle du troisième lien depuis 2018 puis qu'on est encore dans une fourchette de prix qui varie de 4 milliards.
Et c'est toujours le ministre des Transports, Jonathan Julien, qui gère le projet en ce moment. On continue d'avancer là-dedans. Mais c'est quand même, comme je te disais, très, très, très présent dans la course à la chefferie au niveau de la CAQ en ce moment. Donc, il s'est dit à l'écoute de ceux qui se présentent à la chefferie du parti, mais qu'on continue de travailler sur le dit dossier. Il a rappelé que c'est un engagement du parti, donc de la coalition Avenir Québec. Mais Christine Fréchette, qui fait partie de cette course-là, semble un peu moins pressée que Bernard Drainville à mettre en branle le projet de troisième lien. Donc, c'est sûr qu'on va en jaser. Puis d'ici la fin février, contrairement au ministre des Finances, Éric Girard, qui lui envisage plutôt d'attendre la fin de la course à la chefferie avant de déposer le budget. Pour Jonathan Julien, bien, on veut toujours dévoiler un petit peu les tenants du projet d'ici la fin février. Donc, on a un budget cible, on a le tracé final du pont-tunnel, en passant, je vous rappelle, qui relierait Québec à Lévis. Ça, c'est dans l'axe de la raffinerie Jean-Gaulin qui devrait être présenté dans cette dite fourchette assez large entre 7 et 11 milliards de dollars.
Travaux du tramway, Respect citoyen va faire une conférence de presse à 13h30 parce qu'ils n'ont pas été informés. Ils ont été informés via les médias par l'administration Marchand, puis il y a des méchants travaux, là, Pascal.
Non, méchants travaux, puis ça, c'est prévu pour quand? Ce printemps. Fait que si vous pensez pouvoir vous retourner de bord rapidement, il va falloir mettre la pédale au fond, au gaz, gaz au fond, Mont-Léon, parce que oui, on va travailler là-dessus dès le printemps. Vous le savez, venue du tramway qui est prévu pour 2033. Donc, on avertit tous les citoyens de Québec, de la grande région, qu'il y aura des changements à venir en raison du chantier. Et je veux dire même des chantiers. Dès avril la Ville de Québec embarque dans une phase, une intensification progressive des chantiers. Donc, on va avoir des impacts, c'est sûr, sur la mobilité des résidents, donc ceux qui vont avoir à prendre la voiture, mais aussi ceux qui se transportent dans certains secteurs, là, mais vont voir la signalisation changer.
Vraiment.
Des fois, ça va devenir un sens unique. Parfois, ça ne passera plus. Il va y avoir des détours. Et tout ça, bien, sera de plus en plus important jusqu'en 2027. Et encore là, ensuite, bien, ça va devenir encore plus important. Quand on parle de changement à venir, plusieurs quartiers qui ne sont pas touchés directement, mais on prévient que les secteurs qui sont situés tout au long du tracé du futur tramway vont avoir des travaux qui vont apparaître là, rapidement. Donc, le secteur Legendre, le chemin des Quatre Bourgeois, boulevard Laurier, René Lévesque, le quartier Saint-Roch, la première avenue, poum! C'est presque un genre de bombardement qui va arriver
clairement.
Et qui va affecter particulièrement les interventions aussi de la ville à ce niveau-là, donc des impacts sur les déplacements. Déjà que c'est pas facile.
Non. Conférence de presse de Respect citoyen, 13h30 aujourd'hui. On va présenter les changements au RTC pour cette période de travaux-là demain. Et lundi, je sais que c'est les sociétés de développement commercial qui s'assoient avec la ville pour voir comment, justement, on va compenser les commerçants et surtout comment les gens vont avoir accès à ces commerces. Donc, ça va être à suivre jusqu'à la semaine prochaine au niveau des travaux du tramway. Mm-hmm. Petite dernière pour la route.
Oui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui sort un petit peu de ce qu'on vient de jaser parce que ben, ça grouille aussi un peu partout. Mais il y a une histoire absolument atroce qui se déroule. Et je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais je te parle et je cite le Journal de Québec d'une belle fille d'un mafieux abattu par erreur. Donc, il y a deux individus qui ont avoué avoir comploté pour tuer son conjoint. Puis finalement, ben, c'est la belle fille qui a été abattue.
Wesh.
Et on avait comploté pour éliminer le fils d'un mafieux notoire. Bon, c'est sûr que là, il y a souvent un petit peu moins de compassion, d'empathie quand on parle de crimes organisés. La chose étant, ça reste des meurtres, ça reste des problématiques sur notre territoire. Surtout quand on vient qu'à jaser encore de s'être trompé de cible. Alors, on a tué l'épouse au lieu de l'homme que l'on ciblait. C'est une fusillade qui est teintée d'amateurisme dans le stationnement du salon de coiffure de la femme en question. Alors, ça amène encore plus de problématiques. Torontois de 32 ans qui a plaidé coupable aujourd'hui à une accusation de complot pour commettre le meurtre d'Anthony Gallo. C'est sûr que ça ne se déroule pas sur notre territoire, mais c'est toujours interrelié. Et c'est une histoire de plus dans ce qui est la guerre de stupéfiants.
On passe au caucus.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le Caucus avec Antonin Iaccarini. Anto, comment vas-tu en ce beau mardi?
Demande-moi donc si je suis satisfaite du déneigement.
Ben c'est pour ça que je l'avais demandé aux gens. Puis là, il y a des gens qui ont écrit « Hey, c'était cool hier quand je suis venu pour aller patiner sur la patinoire extérieure. Les pistes cyclables étaient déneigées. » Fait que j'ai pu marcher dans la piste cyclable. Toi, comment ça a été le déneigement et surtout le déglaçage ce matin, chère Antonine?
Écoute, mon char est au garage parce que sur la côte à Gignac, à côté de chez moi, ce matin, quand je l'ai descendu, j'ai dérapé et je roulais pas vite, je vous le dis. Là. J'ai dérapé, j'ai percuté la chaîne de trottoir. De chance, il n'y avait pas de piéton. Et ensuite, ma voiture ne fonctionnait plus très bien. Alors, elle est au garage pour les deux prochains jours.
Alors, je vais reprendre les paroles d'Yannick Marceau. Ça veut changer le climat, mais c'est même pas capable de déneiger nos rues.
Oui, puis on nous avait avisé que le déneigement allait changer, là, notamment à l'annonce du dernier budget. Mais honnêtement, les côtes, comme la côte à Gignac, comme la plupart des côtes qu'on utilise, à Québec, les côtes sont à pic, là, et c'était extrêmement glissant ce matin. Puis je parle pas là, à 6 heures du matin. Là. Mm-hmm. Je suis partie de chez nous, il était 8 heures.
C'est ça. Donc là, on s'entend qu'on est dans l'heure de pointe. Oui, il y a eu plus de neige jusqu'à présent cette année que l'an passé, mais les dernières statistiques démontraient qu'il y avait 652 plaintes. Si on remontait à l'hiver il y a 2 ans, pour à peu près la même quantité de neige, c'était 604 plaintes. C'est pas normal qu'en 2 ans, on ne soit pas capable d'améliorer un service qui était déjà difficile.
Ouais, puis tu sais, je pense qu'aussi c'est une question d'adaptation. À un moment donné, on est habitué de conduire dans certaines conditions. On est tous habitués à la conduite hivernale. Là. Moi, c'est pas quelque chose qui me stresse plus qu'il faut. J'ai une bonne voiture, j'avais des pneus neufs. On roule plus prudemment, on est moins brusque. Mais ce matin, j'ai fait un saut. Je vais vous dire, là, c'est la première fois que ça m'arrive de toute ma vie. J'ai jamais fait d'accident. Le seul accident que j'ai fait dans ma vie, c'est de casser une voiture dans un stationnement. J'étais jeune. Et puis, c'était même pas ma voiture. C'était pas parce que je roulais vite, j'étais dans un parking. Donc, voilà. Fait que j'ai plus d'auto et merci de m'accueillir via Zoom aujourd'hui. Je me cherche une autre location.
Ça nous fait un énorme plaisir. Antonine, Jean-François Roberge va être en entrevue tout à l'heure avec nous. C'est notamment le ministre de l'Immigration. Il va nous parler de son appui à Christine Fréchette. Ce matin, cependant, sur les ondes d'LCN, il a été interviewé par Alain Laforêt. Et voici ce qu'il a dit. Je te le fais entendre. Et on en parle par la suite.
Parce que j'ai la conviction que Christine, c'est le leadership dont on a besoin en ce moment, est capable de rassembler les gens qui incarnent dans notre parti la prospérité, la fierté, l'efficacité aussi. J'ai eu plusieurs conversations avec elle dans les derniers jours. J'ai senti une ferme intention de défendre notre identité, notre laïcité, notre langue, notre culture, mais aussi de ne pas laisser tomber ce qui est vraiment la coalition, c'est-à-dire une grande équipe qui travaille ensemble. Donc, on n'a pas à choisir là, entre le camp nationaliste puis les économiques. On a une leader qui est capable de nous rassembler autour de ça. Puis c'est vraiment l'ADN de la CAQ. C'est pour ça que je suis vraiment très, très fier ce matin de donner mon appui à Christine. Je pense que les Québécois vont se reconnaître en elle. Ceux qui ne la connaissent pas vont la découvrir.
On n'a pas à choisir entre le camp nationaliste et le camp économique. Spécial comme phrase, ça, du ministre Roberge?
Oui, il faut se rappeler qu'on s'adresse aux membres hein, ici.
Ouais.
Et que depuis le début de la course, en fait, c'était la pré-course, parce que là, elle est vraiment commencée depuis en fin de semaine maintenant qu'on a nos deux candidats déclarés. En coulisses, on nous parlait beaucoup d'un affrontement entre l'aile rouge et l'aile bleue, entre les identitaires et les moins identitaires, entre les régions, entre Montréal. Ce que fait Jean-François Roberge aujourd'hui, c'est de venir un petit peu flouter la ligne. Là. C'est-à-dire que c'est un excellent coup pour Christine Fréchette d'avoir le ministre de l'Identité. Donc, il a l'immigration, la laïcité et il a également la langue française. Jean-François Roberge, il incarne ces dossiers-là. Et quand il vient nous dire que Christine Fréchette est fermement nationaliste et qu'elle va préserver vraiment ce qu'est la CAQ et l'identité de la CAQ, ça rend un fier service à Christine Fréchette, qui était un peu plus sur la défensive sur cet aspect-là, alors qu'un Bernard Drainville, on s'attendait à ce qu'il ait davantage l'étiquette nationaliste, identitaire et région. Donc, c'est vraiment un appui de taille pour Christine Fréchette. C'est un excellent coup et par conséquent, un coup dur quand même pour Bernard Drainville.
Oui, Bernard Drainville qui est allé chercher deux autres appuis, dont Luc Provençal, le député de la Beauce. Mais jusqu'à présent, c'est des députés d'arrière-ban qui appuient Bernard Drainville et c'est des ministres qui appuient Christine Fréchette. Est-ce que tu vois là vraiment, autrement dit, on peut cerner vraiment qu'avec ces appuis-là, Christine Fréchette est celle que l'establishment de la CAQ voudrait voir comme chef?
Bien, on avait ce sentiment-là, surtout aussi avec cette nouvelle-là qui était sortie cette semaine, comme quoi Martin Koskinen, le directeur de cabinet de M. Legault, avait avisé Christine Fréchette de la démission à venir de François Legault. Mais il y a quand même une grande variété de députés qui appuient Christine Fréchette. Il y a aussi des députés plus d'arrière-ban, des députés de région. Du côté de Bernard Drainville, on manque un peu de quelques ténors, parce que le seul ministre qui appuie Bernard Drainville, c'est Samuel Poulain. C'est un jeune ministre très, très dynamique qui va beaucoup l'aider dans son organisation. Il est député en Beauce, donc aussi, encore une fois, là, la représentation des régions. Mais quand même, c'est des appuis qui sont, disons, moins des ténors du parti. Puis ça veut pas... Je suis pas capable d'y voir vraiment une si grande différence du côté de l'establishment, pas establishment dans ce cas-ci, parce que les appuis de Christine Fréchette sont trop variés. C'est pas... Il y a des nouveaux, il y a des plus anciens, il y a de la région, il y a de la ville. Donc, pour l'instant, il y a vraiment du poids du côté des appuis. C'est pas... Les votes dans la course à la chefferie des députés ou des ministres valent pas plus cher que les votes des membres. Par contre, ces élus-là viennent vraiment donner de l'eau au moulin, de l'exposition médiatique. Ça devient des petits relayeurs de tes messages dans l'espace public, mais aussi auprès des électeurs dans les circonscriptions, les membres, etc. Donc, c'est sûr que les appuis, c'est important, surtout en début de course. La prochaine étape qu'on va surveiller, c'est le premier sondage qui va sortir. Mm-hmm. Ça aussi, là, si jamais un des deux candidats était très en retard sur l'autre, ça devient plus compliqué des fois de changer la conversation autour de la course à la chefferie.
Oui, Jean-Marc Léger qui en a promis un quand même assez rapidement, donc ça sera à surveiller. Là, j'ai l'impression qu'on devrait avoir ça cette semaine dans les médias de Québécois. Je te fais entendre Simon Jolin Barrette en entrevue justement avec Alain Laforêt sur les ondes d'LCN qui explique pourquoi il n'est pas allé dans la course à la chefferie.
Peu de personnes le savent parce que je suis assez privé sur ma vie personnelle, mais j'ai deux jeunes enfants, puis ma famille a fait énormément de sacrifices au cours des 8 dernières années. Je trouve que présentement, ils ont fait suffisamment de sacrifices. Puis il y a des raisons professionnelles aussi. Quand j'ai été nommé pour ministre pour la première fois à 31 ans, ma fille avait un an et demi. Et durant le deuxième mandat, j'ai eu un garçon qui a désormais 4 ans. Alors, c'est sûr qu'à 4 et 8 ans, ça demande une gymnastique incroyable de la part de la famille. C'était pas le bon moment pour moi, mais ce que je vous dis, c'est à la prochaine fois.
Donc, il veut encore. Puis moi, je vous écoute parler de ça. J'ai rattrapé les caucus lors de mes absences des derniers jours. Simon Jolin Barrette était intéressé, mais clairement, peut-être que la situation actuelle aussi de remplacer François Legault, Antonine, d'avoir des gros bottillons à chausser parce que la CAQ a perdu énormément dans les intentions de sondage, donc dans les intentions de vote aux prochaines élections, énormément d'enjeux. Peut-être qu'il voyait la montagne encore plus grosse que reprendre un parti ou créer un parti habituellement. Je sais pas, t'en penses quoi, toi?
Ben oui, c'est comme si on t'offrait là, de te battre pour avoir... Là, je suis dans mes affaires de char aujourd'hui, pour te donner conduire un véhicule, mais c'est sûr qu'il manque une roue, la carrosserie est toute cabossée. Tu sais, c'est pas évident la situation de la CAQ. C'est un beau défi, par contre, et faut pas sous-estimer le pouvoir d'avoir un nouveau chef à la tête d'un parti. Simon Jolin Barrette l'a vraiment considéré y aller, malgré sa famille, parce que à la fin de la journée, ça pèse très lourd dans la balance, mais il l'a quand même considéré, il a mesuré des appuis, il a même reçu des appuis publics. Donc, il n'a pas décidé de ne pas y aller parce qu'il n'y avait pas d'appui ou qu'il ne pensait pas être capable nécessairement de gagner la course à la chefferie. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui étaient majeures. Évidemment, ses enfants, et on le comprend. Mais l'autre chose aussi, c'est effectivement de se dire, est-ce qu'en octobre prochain, la CAQ est capable soit de remonter assez là, pour rester une force politique importante ou même de gagner l'élection. Et à cette question, Simon Jolin Barrette nous a sorti une citation célèbre de René Lévesque, à la prochaine fois.
Oui, mais là, la prochaine fois, il parle de ses enfants, il parle de comment c'était difficile pour le milieu familial. Il s'en va, Simon Jolin Barrette, pour les prochaines élections. Il ne se présentera pas. Il va revenir dans 4 ans.
Écoute, c'est une autre décision. Puis Simon Jolin Barrette, il faut le rappeler, est élu depuis 2014. Là, il a 37 ans. Fait que je vous laisse faire les mathématiques.
Oui, exactement. Il y avait 26 ans.
Dans les années de carrière, ben c'est ça. Fait que, tu sais, sur les années de sa vie professionnelle, il y a beaucoup d'années comme élu, ce qui est une expérience extraordinaire, mais peut-être aussi que pour prendre la tête d'un parti éventuellement ou la tête du Québec, il y aurait avantage à aller chercher une autre expérience aussi pour ne pas être seulement qu'un politicien de métier. Fait que ça, c'est une possibilité. Ou, autre option, il se présente à la prochaine élection, la CAQ a un résultat soit plus intéressant, reste député dans l'opposition, et quand tu es dans l'opposition, ben c'est quand même intéressant ceux aussi pour se faire valoir, là, puis être leader parlementaire, par exemple, ou alors prendre le relais d'un chef qui n'aurait pas assez performé pour trouver que c'est légitime de rester à la tête de la formation politique. Et là, ben, t'es celui qui vient un peu recoller les pots cassés. Fait que ça peut être intéressant aussi pour Simon Jolin Barrette. Bref, il manque pas d'options, il manque pas de perspectives intéressantes pour lui. Il s'est démarqué pendant les deux mandats de la CAQ. Il a un leg très, très intéressant. Et je pense qu'il ressort de tout ça assez fort.
Il est jeune aussi.
Ben oui, 37 ans, là. Ouais. C'est extrêmement jeune pour avoir accompli tout ce qu'il a fait. Donc, il ne va pas disparaître du jour au lendemain, je pense, notre Simon Jolin Barrette.
Vous l'aurez entendu sur les ondes de Boulevard 102.1, Jeff Fortin prévoit que Simon Jolin Barrette ne se présentera pas aux prochaines élections. Hey, c'est une grosse prédiction, hein?
Oui, tu avais prédit aussi qu'elle a gagné la course à la chefferie, mais bon, moi, j'avais dit Geneviève Guilbeault.
Oui, c'est ça. Bon, on est quitte. On est vraiment, vraiment quitte. Et on passe au fédéral. Le secrétaire américain du Trésor, Scott Bessin, a déclaré que Mark Carney s'était excusé de façon agressive à Donald Trump en voulant dire qu'il se sentait tellement mal d'avoir fait de la pépine au président américain. Mais Mark Carney a tenu justement, à donner sa version des faits ce matin en entrant au Conseil de ministres à la Chambre des communes. On l'écoute.
But to be absolutely clear, and I said this to the president, I meant what I said in Davos. It was clear. It was a broader set of issues that Canada was the first country to understand the change in U.S. trade policy that he had initiated. And we're responding to that. We're responding positively by building partnerships abroad. We're responding positively by building at home. And we're prepared to respond positively by building that new relationship through CUSMA. He understood that, and it was a good conversation, as I said.
Pour traduire, Mark Carney a dit « J'ai expliqué à Donald Trump que je vais toujours être ouvert à faire de la business avec les Américains, que je suis ouvert à négocier, à signer une nouvelle entente avec les États-Unis, mais que dans le contexte actuel, je n'avais d'autre choix que de me tourner vers d'autres marchés également. » Il dit que Donald Trump a accepté cette explication. Antonine, qui dit vrai? Moi, ce matin, j'ai dit c'est Mark Carney parce que je crois pas vraiment ce qui sort de bouche de la Maison-Blanche à l'heure actuelle.
Oui, effectivement. Puis il faut comprendre à quoi le président Trump et son entourage répondent en ce moment. Oui, on nous dit qu'on est fâché de l'accord qu'on a passé avec la Chine, mais en fait, il faut se rappeler quand on a annoncé cet accord-là, qui n'est pas un accord de libre-échange, qui est seulement une entente sur certains éléments très sectoriels, la première réaction de Donald Trump, ça n'a pas été d'être fâché. Hein. Ce qu'il a répondu, c'est ben, « grand bien leur face ». Puis si vous pouvez faire une entente avec la Chine, je pense que vous devriez le faire. Mais c'est vraiment le discours à Davos qui a mis le feu aux poudres et qui a fâché M. Trump, qui se sent, je ne sais pas si c'est des vrais sentiments ou pas, mais en tout cas qui a démontré du mécontentement à la suite de ça et qui a menacé de tarifs de 100 % sur les produits canadiens. Moi, je me dis rendu là, 100 % mais pourquoi pas 1000 %
tant qu'à ça. Pourquoi? Ben oui.
N'importe quoi. Donc, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, tu le disais, qui est allé à Fox et nous dire qu'on s'était foiré finalement, puis que M. Carney faisait un petit peu moins son tough au téléphone qu'il faisait à Davos. Moi, je ne prendrais pas ces paroles-là comme paroles d'évangile du tout, parce que c'est super stratégique d'aller dire que finalement, on s'est écrasé. Puis, pourquoi? Parce que pour M. Carney, ça veut dire un peu perdre l'appui de tout le monde, même à l'interne du pays. Là. Ça vient affaiblir ton adversaire ou ton partenaire, dépendamment comment vous le voyez, parce que les gens qui pensent qu'on devrait faire les toughs avec les Américains, je pense notamment à des gens comme le premier ministre ontarien ou des gens de M. Madame Tout-le-Monde qui pensent qu'il ne faut pas s'écraser devant Trump, vont dire « bon, on s'était foiré encore, on a déjà fait plein de concessions, ça ne nous a rien donné ». Et les autres qui pensent qu'on devrait faire bien, bien, bien attention, ben, vont se dire, t'as fait le cow-boy à Davos, tu t'es pensé bon, t'as fait les gros bras, et maintenant, visiblement, tu te rends à l'évidence. Donc, bref, tu perds tout le monde avec une espèce d'hésitation comme celle-là. Mais bon, moi, je le crois, le premier ministre Carney, quand il dit que l'appel qu'il a passé était conforme à son allocution. Je ne m'attends pas à ce qu'il envoie promener les Américains au téléphone non plus. Il a dû être quand même, somme toute, poli. Mais de là à reculer, à dire, ben non, on ne fera pas d'entente avec les autres puissances moyennes. Puis, on compte vraiment, on ne veut pas diversifier nos marchés. On compte vraiment juste sur les États-Unis. Bien sûr que non. Là.
Ben non. Pierre Graff, analyste économique, sera avec nous aux alentours de 12h30, 12h35, justement, pour parler de ce dossier. Vous êtes présentement dans le caucus avec Antonine Iaccarini. Ça se déroule du lundi au jeudi, entre 12h30 et 12h30. Deux fois, on le tire un peu comme quand on a des entrevues comme hier avec Bernard de Rainville. Anto, je fais juste un petit retour en arrière parce qu'on a une excellente question d'un auditeur par texto. Puis c'est une rumeur que j'ai entendue énormément. Est-ce que Simon Jolin Barrette pourrait transférer au PQ? Il y a plein d'analystes qui disent « Hey, Simon-Jolin Barrette, c'est le prochain ministre de la Justice au PQ. » Moi, j'y crois pas pantoute.
Et il l'a dit « à la prochaine fois ».
Ouais, c'est ça, comme René Lévesque. Moi, j'y crois pas pantoute. Mais toi, t'es où?
Non, j'y crois pas. Puis, faut aussi comprendre que Simon-Jolin Barrette utilise souvent l'héritage péquiste dans ses communications. Ils ont fait une coupe de bons coups, rendre hommage à Camille Lorrain, notamment le père de la loi 101. Donc, il ne se gêne pas pour presque instrumentaliser le passé du PQ. Mais pour ce qui est du présent PQ, il y a pas mal d'animosité quand même souvent entre Simon-Jolin Barrette et le PQ. Moi, je pense pas qu'il va avoir intérêt à joindre le PQ. L'autre élément, c'est que le Parti québécois l'a dit à de nombreuses reprises qu'il ne prendrait pas de caquistes et de transfuges caquistes. Vincent Marissal, on ne sait toujours pas du côté de QS, mais ça, c'est une autre histoire. Par contre, quelque chose que je veux souligner ici aujourd'hui, parce que le PQ dit on veut pas de transfuge, mais à un moment donné, si tu veux faire un pays, il va falloir que les tests de pureté se calment. Donc, ça veut dire que peut-être que tu veux pas avoir des candidats qui arrivent de la CAQ, mais tu veux certainement avoir des électeurs caquistes qui appuient ton projet. Donc, il va falloir faire attention aussi au message que le PQ envoie, mais en crachant un peu sur les nationalistes qui arrivent de d'autres horizons politiques. Et dans un référendum, là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un référendum, les gens ne s'en rappellent pas, mais ce n'est pas un parti politique qui porte le camp du oui ou le camp du non. Okay? Donc, c'est une coalition qui porte le camp du oui et c'est une coalition qui porte le camp du non avec du fédéral, avec du provincial, mais aussi avec la société civile. Donc, une fois qu'un référendum est déclenché, si Simon-Jeanin Barrette, je ne sais pas moi ce qu'il y a dans son cœur par rapport au pays, Simon-Jeanin Barrette, mais s'il décide qu'il est dans le camp du oui, il n'a pas besoin de joindre le PQ, il peut décider de travailler pour le oui à sa manière, comme il le souhaite. Bon, là, je ne suis pas en train de vous annoncer qu'il va le faire. Là. Je vous dis juste qu'il y a moyen aussi de vivre son nationalisme de manière non partisane.
Surtout, probablement, s'il reste au sein de la CAQ. Comme tu l'as dit, comme on le sait, c'est une coalition. La pluralité d'idées et d'idéologies aussi est normalement bienvenue. C'est ce qui a fait en sorte que le parti a pu se former de cette manière-là. C'est tellement et toujours dans les premières questions actuellement chez les politiciens. On est vraiment ailleurs qu'il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Pourquoi c'est aussi important, Antonine, actuellement? Est-ce que tu es encore dans une idée tarifaire, dans une idée où tout est à redécouper dans le monde?
Tu veux dire le fait qu'ils se font demander de se positionner sur la souveraineté?
Oui.
Premièrement, parce que le PQ est premier dans les sondages, ils promettent un référendum dans le premier mandat, et ça met les caquistes quand même dans une position un peu inconfortable. C'est plus simple d'avoir une position tranchée. On en parlait hier avec Jeff qui disait « Moi, je suis autonomiste, fait que c'est plate en tabarouette dans un contexte comme on vit actuellement. » Mais c'est la même chose à la CAQ.
Exactement. Mais aujourd'hui, je me sens bien que mon drapeau du Canada corne contre Trump.
Ça varie à tous les jours, j'adore.
C'est ça. Anton, c'est ça, être autonomiste.
Voilà.
C'est ça. On est autonome dans notre choix de pensée. OK. Trêve de plaisanterie, Anton. On termine avec un parti politique qu'on n'entend plus pantoute de parler, c'est-à-dire le PLQ. Ouais. Que font-ils? Ouais. Où sont-ils? Que se passe-t-il?
Où vont-ils? Comment se sentent-ils?
Et pourtant, on a tellement suivi Pablo Rodriguez dans la dernière, dans les derniers mois de l'année.
On s'intéresse juste aux affaires qui vont mal. Hein. C'est bien connu dans les médias.
La corruption. Donc, mais là, je te fais entendre Charles Milliard parce qu'aujourd'hui, dans les médias, Greg Kelly, le conjoint de Marois Risky, est sorti pour expliquer à quel point ça avait été difficile émotionnellement, individuellement pour lui. Et ça remet Marois Risky dans l'actualité. Et sur les ondes d'LCN, ce matin, Charles Milliard a répondu à la question qui lui était adressée, à savoir si Marois Risky allait réintégrer le caucus du PLQ.
Alors moi, je fais mon travail de candidat à la chefferie, donc je rencontre tous les gens qui sont impliqués de près ou de loin au parti. Donc je vais rencontrer Mme Risky, on va avoir une discussion, mais j'ai mentionné aux membres du caucus que je veux que ça soit une décision qu'on prenne ensemble.
Okay.
La politique, il y a des statistiques individuelles, mais ça se joue en équipe. Alors moi, je vais avoir cette discussion-là avec le caucus, donc dépendamment si la course se termine en février ou en mars, j'aurai évidemment une réponse rapidement.
OK. Alors comme je dis...
Ensemble pour un Québec dans le Canada. Savais-tu, j'ai trouvé leur slogan.
Leur slogan.
Pas pire.
Ils devraient t'embaucher.
Oui, exactement. Conférence de presse de Marc Tanguay cet après-midi à 13h45. Le PLQ va tenter de se refaire une place, mais le PLQ a été complètement, à part l'expérience corruption où ils ont fait la manchette, sinon est complètement effacé. Effacé dans sa première course à la chefferie par les élections fédérales et là, effacé par la course à la chefferie de la CAQ. Ça va être difficile pour eux de rattraper le PQ.
Oui, puis pour Charles Milliard, bon, il dit là pour l'instant, je suis candidat à la chefferie, mais on s'enligne vers un couronnement au Parti libéral. Puis dans un monde idéal, M. Milliard commencerait déjà à monter un peu la sauce autour de sa personne pour essayer de créer un peu de mouvement, d'élan pour sa formation politique. Et là, avec tout ce qui se passe, ils sont éclipsés. Puis moi, comme chroniqueuse politique là, qui doit soumettre des sujets dans différentes télé-radios, le matin, je me dis, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé du Parti libéral. Il faudrait bien que je trouve une manière aussi de dire où est-ce qu'on en est avec la course à la chefferie. Puis c'est la rentrée parlementaire bientôt à Québec, c'est l'opposition officielle. À chaque fois, mes sujets Parti libéral se font bousculée par un paquet de choses parce qu'au fédéral aussi, évidemment, on a beaucoup de rebondissements sur la scène internationale et il se retrouve complètement éclipsé. C'est la semaine des caucus pré-rentrés. Je vous avoue que je ne sais pas de quoi ils parlent, les libéraux, dans leur caucus. Je ne sais toujours pas c'est quoi leur priorité. Ça fait depuis des années qu'on est dans des situations intérimaires. On a eu Marc Tanguy, il a fait un bon travail, mais qui ne pouvait pas prendre des positions très tranchées non plus, surtout après Dominique Anglade, qui avait fait faire un petit virage à gauche à sa formation politique. Ils ne sont pas très confortables. Puis c'est quoi la position du Parti libéral sur un paquet d'enjeux qui touchent les gens? Je ne le sais pas. Et ce qu'ils vont devoir attendre en avril, quand la CAQ va avoir son chef, pour commencer à exister, ça commence à être proche de la campagne électorale. Le seul bon côté à ça, c'est que ben, M. Billard ne s'use pas de manière prématurée. On va dire ça comme ça.
Est-ce que ça se peut qu'il soit en train de discuter peut-être de gestion de crise suite à ce qui pourrait sortir, suite aux enquêtes, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il soit prêt. Il ne va pas falloir être encore une fois comme un chevreuil sur l'autoroute quand l'information va commencer à sortir. Ça peut-tu être ça actuellement qui est discuté?
Oui, bien, dans le fond, d'habitude, un caucus pré-sessionnel, donc pré-session parlementaire, on est censé vraiment discuter de comment on va se positionner
sur les enjeux
dans la session parlementaire, sur les enjeux, les projets de loi. Est-ce qu'on va déposer des projets de loi? Ça va être quoi nos trois priorités? Et là, effectivement, on doit parler de est-ce qu'on réintègre Marwaksky? On essaie de recoller les pots à l'intérieur. Marc Tanguy, qui est de nouveau chef, mais qui était plus supposé d'être chef, se retrouve à faire ce travail-là. Et là, ce qui m'amène à parler de Marwaksky, parce que c'est quand même un beau casse-tête là, pour Marc Tanguy et pour Charles Milliard, parce que, évidemment, ce qui s'est passé avec Mme Risky, ça laisse des traces. La manière dont elle s'y est prise, en fait, on ne sait toujours pas exactement la chaîne des événements non plus. On se doute que ça a un lien avec l'odeur de corruption.
Avec les brownies, les millefeuilles, la pâtisserie.
Mais la séquence exacte et le lien, ouais. Qu'est-ce qu'elle savait, qu'est-ce qu'elle ignorait? Est-ce qu'elle voulait dénoncer une situation? Pourquoi elle n'a pas dénoncé plutôt que de renvoyer simplement la directrice de cabinet? Là, on a l'impression que ça fait 50 ans que c'est arrivé cette affaire-là, mais ça fait seulement quelques mois. Donc, est-ce que tous les députés vont être très à l'aise à ce qu'on réintègre Mme Risky? Et est-ce que Mme Risky, ça lui tente vraiment de réintégrer avant la fin des enquêtes?
Ça me surprendrait beaucoup. Chose certaine, les auditeurs de Boulevard 101 vont être choyés parce que Charles Milliard va être avec nous demain à midi en studio, donc on va pouvoir lui poser toutes nos questions concernant justement les libéraux. Puis il y aura la place sur nos ondes pour reprendre un petit peu de place dans l'actualité.
C'est gentil.
On est-tu fin de même? Puis on accueille Jean-François Roberge tantôt à 1h qui va nous parler de son appui à Christine Fréchette. Puis on va lui poser des questions sur le PEC. Là. Les deux ténors des chambres de commerce, Marie-Josée Morancier et Frédéric Boisvert, étaient sur nos ondes hier. Puis on dit ça presse la clause grand-père. Donc on va demander qu'est-ce qu'il y en est à Jean-François Roberge. Anto, toujours un bonheur? T'es en congé demain, c'est Victor Henriquez qui te remplace. Et on se reparle juste.
Amusez-vous bien.
Yes.
Bye.
Salut Anto. C'était Antonine Iaccarini, le caucus Iaccarini que vous pouvez entendre sur nos ondes de midi à 12h30 dans l'émission On en jase. Après la pause, Pascal, tu veux nous parler d'une histoire drôle qui se passe avec le Colisée de Québec?
C'est sûr que moi, je la trouve drôle, mais c'est pas drôle. C'est un fait divers. Okay. Là, c'est quand même une introduction par effraction. C'est juste qu'il y a des éléments un peu particuliers qui se sont passés à l'intérieur. Entre autres, le voleur aurait circulé à moto à l'intérieur du Colisée.
Hein?
Ben, tu sais, ça.
Un petit trip de jeunesse.
C'est un peu particulier.
Donc, tu nous parleras de ça et on va également parler avec Pierre Graff, analyste économique. Qu'est-ce qui se passe? Mark Carney, vas-tu trop loin? Vas-tu pas trop loin? On est-tu en train de se mettre les Américains à dos? On est-tu à risque au niveau économique? Pierre va nous démêler dans tout cela immédiatement, dans un instant après cette courte pause à Boulevard 102.1. Vous écoutez l'émission d'En Jase.